Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Fréquence Mistral et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir au studio Ambre et Auré, membres de la collective Saxifrage qui organise le festival Chapeau Haut. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler de la 6e édition de ce festival qui fait son retour dans le Briançonnais puisque l'an dernier il n'avait pas pu avoir lieu. Vous revenez avec une programmation riche et variée une fois encore, on va en parler, pour un événement qui se déroulera à Villars-Saint-Pancras, au centre-montagne, les 2, 3 et 4 août. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de ce qui attend les spectatrices, je voudrais revenir sur l'identité de ce festival et la collective. Et pour cela, on trouve partout autour de la collective une jolie citation d'une philosophe française, Marie-Josée Monzin, comment ça se prononce ?
Monzin.
Les saxifrages poussent jusqu'entre les pavés des trottoirs. Elles s'attaquent aux murs non point pour démolir ce qui en eux nous protège, mais pour y inscrire des ouvertures qui permettent aux pas de se franchir et aux regards de se croiser. Ce festival constitue-t-il une de ces ouvertures dont parle la citation ?
Alors oui, complètement. Les saxifrages, oui, à la base, c'est un terme botanique d'ailleurs. C'est les plantes qui percent la pierre. Donc il y a vraiment cette idée d'évoluer, de dire, de croître, de s'exprimer dans un milieu plus ou moins dur, plus ou moins hostile. Et donc oui, le festival c'est vraiment un espace dédié à donner moyen à des voix qui ont besoin d'émerger justement.
Tu parles de l'émergence, elle est au cœur de ce festival. Peux-tu ou pouvez-vous nous présenter l'identité de Chapeau Haut?
Alors oui, donc l'émergence, moi j'avais très envie de revenir, de parler un petit peu du terme émergence, de son origine. À l'origine, ça veut dire se lever et du coup il y a vraiment l'idée d'une action. C'est un acte, c'est un geste. Enfin, au-delà d'être un produit, il y a vraiment cette idée de geste, le geste avant le produit. Et il y a aussi l'idée d'un processus de sortie et de dévoiler ce qui était caché, ce qui était dissimulé. Et donc, en fait, c'est un acte d'apparition, l'émergence. Enfin, émerger, c'est apparaître, en fait. Apparaître. Et nous, avec ce festival, ce qu'on veut faire et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de donner cet espace-temps et les moyens pour que des voix, apparaissent. On est soutien à l'apparition, quoi, en quelque sorte.
Et concrètement, c'est l'apparition de spectacles ou d'artistes? De qui parle-t-on?
On parle d'artistes, on parle de spectacles, on parle de compagnies. L'émergence, c'est un terme complexe et un petit peu fourre-tout, qui est devenu un peu un terme fourre-tout et un petit peu un label aussi institutionnel pour parler de beaucoup de choses qui sont parfois très différentes. Nous, la manière dont on l'envisage de manière un peu concrète, factuelle, c'est des compagnies ou des personnes qui sont structurées en association ou non. Si elles sont structurées, qui sont structurées depuis moins de 5 ans et ou qui ont créé moins de 3 spectacles. Et donc c'est pas forcément des jeunes personnes, ça peut être des personnes très âgées qui ont décidé de faire du théâtre, c'est quelque chose d'important à dire, quoi. Et du coup ça c'est un petit peu nos critères un peu concrets d'émergence.
Si je peux ajouter juste quelque chose, il y a la question de l'âge, il y a aussi la question des milieux, des milieux et des classes, et là aussi on n'est pas que sur des jeunes personnes qui sortent d'école, mais aussi sur des personnes de tout type. Voilà, enfin, l'émergence, justement, elle est partout, en fait, dans toutes les strates.
Pourquoi avoir dédié un festival à ce type de profil de spectacle?
Déjà parce que on s'y reconnaît, je pense. On s'y retrouve, nous, au sein de la collective. On est toutes et tous artistes, et toutes et tous artistes émergents, émergentes. Du coup, il y a une nécessité qui vient de notre propre rapport à ce métier, à ce travail. Et du coup, de tisser une forme de réseau de solidarité aussi avec les autres personnes autour de nous qu'on côtoie, qu'on connaît ou qu'on connaît pas et qui ont ces nécessités-là. Du coup, il y a vraiment un rapport de nécessité, je crois, d'ouvrir ces espaces-là, en fait, aujourd'hui, quoi.
Ouais, c'est vrai que la nécessité, c'est vraiment là que ça se joue. C'est-à-dire que, comme dans tout début, quand quelque chose commence, ça commence pas pour rien, il y a une vraie volonté derrière, et j'ai l'impression que... actuellement, il y a comment dire, on... le monde de la culture, il est pas extrêmement simple non plus, et du coup, émerger là-dedans, en soi, c'est déjà presque tout un spectacle, quoi. Donc, voilà, c'est pour nous très important de donner cette place-là.
Donc une place à la fois pour que les spectacles soient vus, mais aussi, on voit dans la programmation qu'il y a une volonté de toutes les éditions, pas seulement de celle-ci, une volonté d'avoir des retours aussi des spectateurs. Donc vous dites que un spectacle continue au final d'être construit face aux spectateurs. Est-ce que vous pouvez nous développer cette partie-là?
Oui, carrément, oui. Bah, du coup, en fait, c'est aussi par rapport à ce que disait Auré tout à l'heure, de la question du geste et du produit fini, de montrer que les spectacles ne sont pas des produits finis, de sortir un petit peu de cette façade-là, et du coup de montrer à la fois les dessous et les enjeux de la création, du coup de sensibiliser les publics à cet endroit-là, de qu'est-ce que c'est de créer un spectacle, qu'est-ce que ça demande, quelles sont toutes ces étapes qu'on traverse, et du coup de visibiliser et de montrer aussi pendant le festival ces différentes étapes, du coup d'avoir des formes et des spectacles qui sont à des endroits différents, des formes qui se considèrent comme étant en voie d'aboutissement, des formes qui sont des tentatives, des prémices de choses, des premières étapes de création de travail. Et du coup, d'avoir un petit peu cette palette-là de différents spectacles et de pouvoir aussi laisser des espaces pour les artistes et les publics de rencontres autour de ces questions-là et de pouvoir échanger autour de ça.
Et échanger, du coup, il y a cette notion de dialogue et de dialogue entre les formes, entre les artistes aussi. C'est quand même un lieu, c'est un superbe lieu pour échanger et du coup parler des différentes pratiques, mais surtout quand même entre les spectateurices et les artistes, et les spectateuristes qui sont en fait les acteurs aussi vraiment, puisque, le regard, la parole, enfin rien ne se passerait sans leur présence. Et du coup, c'est aussi là que c'est important de leur offrir plus que le produit fini, et que du coup, il y a beaucoup plus de dialogue qui peut se mettre en route si justement les spectateurs ont plus, eux aussi, de marge de connaissance sur ce que c'est que de créer comme ça des formes. Ouais.
En même temps, c'est difficile pour un public de donner son avis à la fin. Vous trouvez que les personnes qui sont là, les spectateurs, jouent le jeu?
Oui, plutôt. En fait, dans la mesure où il y a aussi un public assez diversifié, du coup, il y a des personnes qui sont des habitués, qui fréquentent les théâtres, qui vont voir des spectacles de manière assez assidue, des personnes moins. Enfin, du coup, il y a aussi un mélange. Alors peut-être, du coup, il y a un engouement collectif qui peut être amené. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on aimerait créer, quoi, une dynamique un peu d'effervescence collective dans lequel, du coup, il y a des rencontres entre les publics qui peuvent se faire et qui peuvent peut-être délier des paroles à des endroits ou d'autres, et puis aussi faire en sorte que les artistes aussi prennent la parole pour accompagner la parole aussi des publics et pour laisser des espaces de parole en montrant justement cette arrière-salle quoi de la création. Et
puis il y a une notion de convivialité aussi autour des pratiques, c'est-à-dire que là où certaines vont parler vraiment technique, d'autres vont plus pouvoir parler de sensations, enfin chacun va amener quelque chose. Et enfin, il y a vraiment cet esprit, ouais, de convivialité, de rapport festif à la pratique, à la création.
Est-ce que cet espace de rencontre entre le public et les jeunes spectacles ou artistes existe dans d'autres festivals ou dans d'autres lieux?
Oui.
C'est quelque chose qui existe, n'est pas d'accord.
Ouais, carrément. Bah, il y en a plein qui existent. Enfin, on n'invente rien, on prolonge des choses et puis on s'inspire, on travaille ensemble, on co-crée. Enfin, on connaît aussi. Enfin, il y a plein d'autres collectifs, plein de dynamiques qui existent ailleurs en France et ailleurs qu'en France, à fond. Après, il en faut quoi. Il en faut encore et il en faut plus quoi. Et il faut aussi des moyens pour soutenir aussi ces dynamiques-là. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est complexe et qui est important, et qui est hyper hyper important, enfin la question des moyens financiers à cet endroit-là, et pour nous c'est aussi pouvoir fournir des conditions d'accueil pour les artistes qui soient au minimum décentes quoi, et pouvoir les accueillir dans le temps, dans la durée, pour que justement les artistes aient le temps aussi de se rencontrer et fassent pas juste 24 heures de trajet pour jouer une date et repartir à l'autre bout de la France, mais essayer de dilater un petit peu cet espace-temps aussi. Bah, ça demande des moyens ou du temps aussi d'organisation en amont, donc c'est complexe à faire. Mais ouais, ça existe. Ouais.
Et vous, comment vous faites cela?
Eh ben, nous, on fait ça, on a des soutiens. On a des soutiens, du coup, de la part de la mairie de Villars-Saint-Pancras. On a, enfin, ouais, des subventions qui nous aident à tenir. On a aussi, de l'autofinancement. Beaucoup sur les fonds de caisse de Saxifrage des éditions précédentes. On fonctionne aussi avec du coup une buvette sur place et du coup des recettes qui sont pendant le festival et qui servent aussi la rémunération des artistes. Et puis après il y a il y a le chapeau qui est un peu au cœur de notre démarche aussi un peu historiquement. Le festival s'appelle Chapeau Haut. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est parti de là entre autres choses quoi. Et du coup c'est la rémunération des artistes au chapeau qui est un geste un peu de la tradition de la rue quoi.
Ancestral.
Oui presque. On pourrait dire carrément.
En fait on reprend un peu ce geste du chapeau. On dit beaucoup le mot geste. Ce geste du chapeau, mais voilà on l'a un peu transformé, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment que les artistes soient rémunérés pour de vrai. Alors, on garde ce geste du don, etc., mais on va faire des cachets, etc. Mais il y a ce geste qui rappelle que ça se fait ensemble. C'est ça qui était quand même assez important quand on a démarré. Ouais.
Donc, vous payez tous les artistes et vous complétez en fonction des chapeaux qui ont été...
C'est ça. En fait, le chapeau, c'est l'outil de rémunération principal des artistes. Qu'on regroupe, du coup on met tous les chapeaux en commun et après on répartit l'argent et on fait des déclarations et des cachets à partir de cet argent-là et nous après on complète avec nos recettes, nos billetteries. Mais on pourrait faire une billetterie à l'entrée de manière fixe ou à prix libre, mais on tient un petit peu au geste du chapeau et au contact un peu direct qui se crée entre justement le spectacle qui est la sensation qui vient d'être vécue et le geste monétaire du coup qui voilà encore une fois avec toute cette sensibilisation qu'on tente de faire pour mettre en lumière tout le travail monumental que c'est de monter un spectacle parfois de quelques minutes quoi et
On a parlé donc de ce festival, de son identité, de ce qu'il représente. Avant de passer à la programmation de cette édition en particulier, j'aimerais parler de ce fameux « on » qui est derrière la collective Saxifrage.
On est une petite quinzaine, donc on est tous artistes, donc on est quand même artistes qui organisons des événements. Donc voilà, il y a des plasticiens, des plasticiennes, il y a une réalisatrice, il y a des metteurs, des metteuses en scène, comédiens, comédiennes, marionnettistes, auteurs, autrices, j'en oublie, performance, il y a de la performance aussi, j'espère que j'oublie rien.
Et vous?
Nous, eh ben vas-y encore.
Ben moi je suis principalement marionnettiste, et j'écris aussi et je mets en scène, puis récemment, pour le théâtre.
Et Auré ?
Et moi, du coup, je suis poétesse et autrice, et je performe aussi mes textes, et je suis comédienne.
Comment vous vous êtes tous rencontrés, toutes et tous rencontrés ?
Ouais, c'est une grande histoire.
C'est une grande histoire, ouais.
C'est une grande histoire, et peut-être c'est un peu aussi derrière la collective, il y a des amis avant tout aussi, vraiment très fortement, quoi. Enfin, ouais, bien sûr, nos pratiques artistiques, elles nous relient très fortes et nos sensibilités communes, mais c'est un grand réseau d'amitié. Et du coup, on s'est connus par l'amitié, par effet de ricochet et un peu de grande toile, quoi. Après, il y a une partie des personnes du collectif qui sont issues du Briançonnais, qui ont grandi ici, qui étaient au lycée à Briançon. Ces personnes ont un peu essaimé, ont fait des rencontres, du coup on ramenait d'autres personnes ici et on s'est rencontrés de plus en plus quoi autour de nos pratiques et de la vie quoi.
Oui, c'est vrai qu'il y a, enfin je rajoute juste, l'amitié en fait crée une sorte de force commune qui fait rêve un petit peu, qui fait que on peut rêver, on peut rendre possible des rêves et c'est vrai que c'est vachement fort. D'avoir réussi après toutes ces années à concrétiser de plus en plus ce qui au début était vraiment purement du rêve et qui a pris vraiment forme. C'est chouette.
Et la collective est née pour créer un festival ou au départ pour un rassemblement d'artistes?
La collective, elle est née pour créer un rassemblement d'artistes et de festivals qui, à l'origine de l'origine, était autour plutôt des arts du cirque et de la jonglerie. Elle portait un autre nom, elle s'appelait Artitude à l'époque.
Et
Et puis il y a eu un processus de mutation qui s'est enclenché sur les deux premières années et qui a donné naissance à Saxifrage du coup. Mais du coup, oui, elle s'est quand même constituée autour de la première édition de Chapeau, qui à la base était une espèce de grande petite fête qui durait une journée avec deux spectacles, un atelier d'écriture, et qui était vraiment un désir de d'ouvrir cette prémisse d'espace quoi pour nous et pour montrer des choses et partager un moment quoi. Et puis d'année en année, ça s'est déployé, ça a grandi un petit peu. Et donc il y a eu l'organisation de festivals et d'événements qui tient une place importante quoi dans le liant du collectif, de la collective. Mais après, à côté de ça, on travaille ensemble aussi sur d'autres projets de création. On a des projets de création collective. On a un cabaret qui a été créé collectivement il y a un an et demi. Et puis après, il y a des micro-groupes, des micro-communautés au sein de la collective qui travaillent ensemble aussi et qui travaillent sur plein de projets différents.
D'accord. Je rebondis. Tu disais collectif, collective. C'est la collective Saxifrage. Pourquoi l'avoir féminisée?
De manière assez spontanée et instinctive, à vrai dire. Sous le poids du passé qu'on transporte, c'était vraiment un petit geste assez simple.
De rééquilibrage un petit peu, de l'hégémonie du masculin dans la langue française et d'autres.
Oui.
Donc une collective qui organise entre autres Chapeau, mais d'autres festivals. Avant de poursuivre, je vous propose une pause musicale. On va écouter Décoder de Mathéo Langlois, qui sera présent au festival à Chapeau.
Et décoder des cases et des codes. Et décaser des codes et des cases. Et décoder des cases et des cordes. Et des cases et des cordes et des cases déphasées. Alors, qu'est-ce que t'as fait de ta case? Je sais plus qui t'es. T'aurais pu la prendre au cas où, pour l'occasion. Qu'est-ce que t'as fait de ton cadre, de ta condition? Si tu te la jouais plus carré, tu te ferais des ronds. Alors, qu'est-ce qui t'arrive dans ta case? Y'a des cassures, dans ton cas c'est sûr, les cadres sont tout cassés. C'est pas très carré tout ça, on peut pas caser ton cas. Ta peinture est belle, tu devrais l'encadrer. Et décoder des cases et des codes. Et des cases et des codes et des cases déphasées. Et décoder des cases et des codes. Et des cases et des codes et des cases. Qu'est-ce que t'as fait de ta montre? T'es quasiment viré. T'as pas vu le temps filer sur le cadran. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Plus personne ne peut t'encadrer. Case départ ou case désespéré. Mais case le hasard, l'amour, les rêves, les émotions. Tout casé en tout cas, on en a toujours l'occasion. C'est pas très carré tout ça, on peut pas caser ton cas. Ta peinture est belle, tu devrais l'encadrer. Et décoder des cases et des cordes.
cases et des codes et des cases déphasées. Et des codes et des cases et des codes. Et des cases et des codes et des cases déphasées.
Chapeau en est à sa 6e édition, on va peut-être parler quand même de la programmation. Comment va se dérouler ce festival ?
Il y a beaucoup de choses, il y a vraiment pas mal de choses. Donc déjà il va y avoir les spectacles, on va en reparler. Il va y avoir une exposition qui va durer 3 jours, probablement assez immersive. Il va y avoir des ateliers d'écriture, des ateliers de slam, des ateliers de corps aussi, de mime. Il va y avoir quoi d'autre ?
Il va y avoir des tables rondes, qui seront des temps un petit peu en continu pendant toute la durée du festival, où il y aura, ce sera des discussions autour de thématiques d'actualité ou de thématiques qui sont transportées, véhiculées par les spectacles qui seront programmés. Et du coup, ça sera des temps libres d'échange entre les publics et les artistes. Et, ouais.
Ah oui, il va y avoir aussi la projection... La première du film qui a été du coup tourné cet été dans les Hautes-Alpes. Un tournage participatif qui a ramené beaucoup de monde. Et du coup, sur le principe de ce que Mila Roulx s'appelle le cinéma performatif, cinéma performance, il y a aussi l'aspect performance. Enfin, tout ça pour dire qu'il va y avoir en fait la projection de la première va être accompagnée du coup de performances sonores, visuelles, une projection vivante, cinéma vivant.
Et il va y avoir des concerts pour faire la fête le soir, et puis en journée des concerts aussi pour faire la fête, des petites fêtes aussi, mais qui seront aussi des concerts peut-être plus contemplatifs, plus d'écoute.
Dans toute cette programmation, y a-t-il un fil rouge autre que, on parlait de l'émergence, pour votre sélection, il y avait quand même 80 compagnies qui ont envoyé leur candidature, si on peut parler de candidature, vous en avez sélectionné 26.
Ouais, carrément. C'était une sélection difficile parce que en effet, on a eu beaucoup de candidatures et énormément de projets qu'on avait envie de défendre et beaucoup de projets qu'on avait envie de défendre et qu'on n'a pas pu sélectionner. Déjà 26 spectacles, c'est beaucoup. Les fils rouges, c'était avant tout l'émergence, on en a déjà pas mal parlé. Après les deux autres endroits peut-être importants, c'est déjà une transversalité, pluridisciplinarité des pratiques. On a essayé d'équilibrer entre plein de médiums et de médiums artistiques différents qu'on avait envie de voir représenter. La marionnette, le théâtre, le clown, la danse, la performance, la magie, le cirque. Donc voilà, tout ça, essayer de faire rentrer tout ça avec des spectacles aussi qui sont des hybrides, qui mélangent ces pratiques-là. Mais du coup, voilà, on a équilibré autour de ça. Et puis le dernier endroit peut-être, c'est les publics visés par les spectacles, d'avoir autant des spectacles vraiment très grand public que des spectacles à visée du jeune public ou de public vraiment adulte, des spectacles aussi avec des gestes plus performatifs, enfin voilà, d'essayer d'équilibrer aussi un petit peu sur les publics visés.
Donc une programmation qui mise sur la diversité, justement, sur la variété.
Ouais, complètement. Après, l'autre endroit aussi, c'est la question de la provenance des compagnies. Des compagnies qui sont basées dans les Hautes-Alpes, des compagnies aussi qui viennent d'ailleurs en France, qui viennent aussi d'autres pays. On a des compagnies qui viennent de Barcelone, qui viennent de Belgique. Et puis le dernier endroit aussi, c'est l'âge. C'était un critère aussi l'âge des acteurs et des actrices ou des personnes qui font partie des compagnies.
Essayer d'équilibrer. Une variété aussi ?
Ouais, carrément.
D'accord. On va revenir sur certains spectacles, on ne pourra pas parler de tous. Peut-être, puisqu'on est dans le Briançonnais, des compagnies locales. Est-ce que ce sont de nouvelles compagnies ? Est-ce que ce sont des compagnies qu'on a déjà vues ?
Il y aura deux compagnies qui sont vraiment implantées dans les Hautes-Alpes. La première compagnie, c'est le spectacle Golas Brancas, qui est du coup un spectacle de danse, une forme courte, de Malou et Tonin, qui sont deux danseurs qui viennent de Briançon, qui sont actuellement au Jeune Ballet de Genève, et du coup qui vont présenter leur première création de danse pour le festival. La deuxième compagnie, le deuxième spectacle, du coup, c'est le spectacle La Route, de la compagnie L'Apocalypse Joyeuse, qui présentera aussi sa première pour le festival Chapeau. Ce sera la première et qui va être un spectacle un peu spécifique, un peu particulier, parce que c'est un spectacle qui est une forme de déambulation où le public sera amené du coup en dehors du site du festival pour une forme d'expérience un peu immersive et post-apocalyptique.
Cette année, il y a une nouveauté. Deux compagnies sont en résidence pendant la semaine qui précède le festival. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Et puis, pourquoi avoir accueilli en résidence?
Alors, moi, je vais peut-être parler de la compagnie, donc, Si Schrader and Presto, qui va travailler sur une forme qui s'appelle « On ne joue pas aux cartes avec un cochon ». Donc, brièvement, c'est du coup effectivement un spectacle qui va se jouer pour la première fois. Donc, il va s'agir là de travailler sur des fables, des contes, notamment les trois petits cochons et le petit chapeau rouge. Voilà, c'est ça. Bon, on va pas en dire plus. Il y aura de la marionnette, c'est un spectacle marionnette.
Et du coup, la deuxième compagnie qui sera accueillie en résidence, c'est la compagnie L'Archipel de la Sauvague, qui est actuellement en train de changer de nom, mais qui s'appelle à ce jour toujours L'Archipel de la Sauvague, et qui est du coup un autre collectif qui sont des amis, un peu des cousines et des cousins aussi proches, quoi. Et du coup, là, qui viendra en résidence une semaine pour travailler autour d'un spectacle de pyrotechnie infime et douce, de toute petite pyrotechnie, d'oiseaux en papier qui s'enflamment et de cirque, quoi. Et donc voilà, qui travaillera aussi pendant toute la semaine en espace extérieur, dans le lieu dans lequel elle fera sa représentation pendant le festival.
Et pourquoi avez-vous voulu intégrer ces résidences en amont du festival?
Il y avait cette idée de pouvoir apporter un regard, parce que oui, en fait, des compagnies qui ont besoin d'espace, besoin de temps, enfin, c'était d'offrir cet espace-là, de donner un regard, et de permettre aussi à deux compagnies de dialoguer entre elles sur un temps un peu plus long que celui du festival. Voilà.
Un regard parce que vous allez les accompagner?
Dans la mesure du possible. Effectivement, là, c'est des spectacles qui concernent, pour certaines pratiques, des pratiques qui sont très proches des nôtres, les sensibilités aussi. On va les accompagner, oui, je pense que, on va pas trop s'avancer, mais dans la mesure du possible, oui, des regards, des conseils.
Éventuellement une sortie de résidence en avant-première, avant le festival, pour faire des retours.
Ah, je pense à quelque chose qui n'apparaît encore nulle part. C'est en quelque sorte une surprise. Je pense à ça parce que dans le collectif de la Sauvague, il y a l'illustrateur de notre revue. Donc en fait, le collectif Saxifrage a une revue de poésie. Et le troisième numéro paraîtra au festival.
Puisqu'au festival, il y a une librairie d'ailleurs.
Oui, il y aura un stand de librairie. On est en partenariat avec la librairie Voyage au bout du livre. Donc on a communiqué sur une petite sélection de livres autour du théâtre, de la culture aujourd'hui, mais aussi des recueils de poèmes. Et il y aura aussi sur ce stand de librairie des recueils et des éditions de poètes, poétesses présents sur le festival, mais aussi des illustrations, des petites cartes, et aussi en vente probablement des extraits d'œuvres et des reproductions de l'exposition.
Et aussi, du coup, cette librairie et toutes ces choses, elles s'insèrent dans ce qu'on appelle un peu le village du festival, et qui aura aussi, il y aura aussi la présence d'une tatoueuse qui sera présente pendant toute la durée du festival, et d'une friperie aussi.
Il y en a des choses. on peut partir là-dessus sur le village. Il y aura des food trucks à manger, de la nourriture. Quoi d'autre? Beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais aussi des coins tranquilles. Alors oui, il y aura des coins tranquilles pour se reposer, pour bouquiner et pour prendre le soleil, mais pas trop fort, parce que le soleil est très fort.
C'est sûr. Donc oui, de toute façon, on ne pourra pas parler de toute la programmation, puisqu'il se passe plein de choses. Le mieux pour les auditeuristes, c'est d'aller voir le programme, qui est sur le site Saxifrage, c'est bien ça? Moi, j'avais quand même une petite question avant de passer aux infos pratiques, justement. C'est vous, les membres de la collective, vous ne présentez aucune création?
A priori, non. Enfin, il y a donc la revue, avec quand même des poètes de la collective. Mais après, en fait, l'idée de Chapeau, c'est vraiment un festival où où on ne se programme pas, nous. Et c'est pour ça qu'on a créé ce petit festival d'hiver, Chapka Haute, qui là produit du coup des spectacles de la collective dans divers lieux en itinérance, en février. Enfin, voilà, c'est autre chose.
On commence à teaser. Alors, donc, au-delà de la programmation, on invite vraiment à aller voir dans le détail toutes les compagnies et tous les spectacles, plus le village, plus il y aura d'autres activités, comme vous l'avez dit, des expositions qui auront lieu pendant les 3 jours. Peut-être, y a-t-il des spectacles qu'il faut réserver ?
Oui, il y a 2 spectacles qui seront sur réservation. Donc le premier spectacle, c'est le spectacle La Route, qui a une déambulation, comme je le disais tout à l'heure, et du coup qui sera sur réservation. Et le deuxième spectacle, c'est le spectacle Marelle, du coup de la compagnie de l'Archipel de la Sauvague, qui sera aussi sur réservation parce que c'est une toute petite jauge.
Et le festival est payant ?
Alors, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. À l'entrée du festival, avec toute cette sensibilisation, sur plein d'autres choses d'ailleurs, il y aura plein de surprises à cette entrée de festival. Mais du coup, voilà, il y a quand même une billetterie qui est libre, avec des échelons divers, de l'argent qui a besoin d'être récolté pour que tout ça fonctionne. Donc nous, on note tout ça, tout est visible, tout est transparent, et puis les personnes qui viennent mettent ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles pensent juste. Et après, il y aura effectivement les chapeaux.
Il faut prévoir du liquide. Est-ce qu'il y aura possibilité de payer par carte? Détail important finalement.
Oui. Alors, prévoyez du liquide parce que c'est super. Mais en revanche, cette année, il y aura la possibilité de payer par carte bleue.
Partout?
À l'entrée du festival et à la buvette, oui.
D'accord. Donc il y aura une buvette, il y aura de la restauration.
Ouais, complètement. Pour les food trucks, c'est pas sûr que la carte bleue soit possible. Mais en tout cas, la buvette et à l'entrée, c'est sûr. Et donc oui, sur le festival, il y aura une buvette. Cette buvette sera fournie en bière par les merveilleuses bières du Brewpub du Monde d'Après à l'Argentière.
Il y a d'autres informations pratiques à savoir ?
Informations pratiques ? Eh ben, bon, concernant les transports, bah effectivement, priorisez vos pieds, vos vélos ou le covoiturage pour venir. Mais il y aura aussi une navette qui partira de Briançon et qui ira au centre montagne à Villars-Saint-Pancras. Voilà.
Merci Auré et Ambre. Donc le festival aura lieu les 2, 3 et 4 août à Villars-Saint-Pancras au centre montagne. Toutes les informations sont disponibles sur votre site qui est
collectivesaxifrage.com.
Et sur Fréquence Mistral, ce n'est pas la dernière fois que l'on entend parler de chapeau haut puisque nous serons notamment présents le samedi avec vous à Villars-Saint-Pancras. On aura un plateau sur place. Merci à toutes les deux.
Merci.
Et à très vite sur Fréquence Mistral.